En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 20 mars 2024 et je reçois Mary Daly Desmarais, la conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal. Les gens qui connaissent cette Montréalaise d'adoption, épouse de Paul Desmarais III et mère de 4 enfants, pourront le confirmer. Elle est de nature très privée. Aujourd'hui, nous dévoilons les moments clés de sa vie. Accompagnez-nous dans un voyage à travers Manhattan, Stanford, Williams College et Yale, sans oublier les escales à Toronto et Paris, et bien sûr, Montréal. Découvrez ce qui l'a fait rester en poste, en dépit de la saga qui a secoué le musée en 2020. Bonne écoute! Alors, bonsoir, Mary.
Bonsoir. D'abord et avant tout, si je pourrais le dire, j'aimerais te dire à toi, Marie-Josée, un très, très grand merci pour l'invitation d'être ici ce soir. Vraiment, comme je t'ai dit, je suis extrêmement flattée par l'invitation et aussi c'est vraiment un honneur pour moi d'être en compagnie de toutes ces femmes si accomplies. Et je suis aussi très touchée par votre présence ici ce soir. Je m'attendais à genre 5-6 personnes, donc je suis un peu wow. Merci beaucoup, je suis très touchée.
Mary Daly, si on est membre du Musée des Beaux-Arts, si on est un philanthrope au Musée des Beaux-Arts, on te voit souvent, tu t'exprimes très souvent lors des expositions, tu es passionnée, tu as beaucoup d'expertise, mais on te connaît peu comme personne. Hein?
Oui, va, c'est probablement
vrai. Je pense qu'on ne connaît rien de toi. Alors, c'est comme un beau terrain de jeu. Je suis vraiment, vraiment contente. Ma première question qui me chicote, là, c'est ton nom.
Ah oui.
Bon, pas ton nom de famille, parce qu'on va en parler tantôt, mais ton prénom, Mary Daly.
Oui.
Ça vient d'où?
En fait, il y a une raison pour laquelle j'ai nommé ma fille Alix. C'est 4 lettres, ça ne peut pas être raccourci. C'est très facile, parce qu'avec mon nom, il faut que je donne une explication à chaque fois. Mais en fait, le nom de ma grand-mère, côté maternel, c'était Mary. Et le prénom de ma mère, en fait, c'est Daly, ce qui n'est pas très commun. Au début, ma mère voulait me nommer simplement Mary, mais ma grand-mère, de côté paternel, vient du sud des États-Unis. Et elle protestait, disait, bon, il faut lui donner un double prénom, ce qui est très commun au sud des États-Unis, et en plus, apparemment, il y avait un Mary Patty. Patty est mon nom de jeune fille, qui était apparemment complètement folle, donc il fallait changer le nom. Donc, d'où vient cette combinaison de Mary, le nom de ma grand-mère, et Daly, le nom de ma mère. Mais tout le monde m'appelle Mary, mais quand même, Mary Daly, c'est mon prénom au complet.
Très, très original. Mary Daly, t'es née à Manhattan en 1981. Tu es l'aînée d'une famille de 3 enfants. Tu as une sœur et un frère plus jeunes. Ta mère est psychologue. Ton père a travaillé, il travaille, j'imagine encore peut-être, dans le domaine de la finance. Mm-hmm. Tu m'as dit que tu te considérais très chanceuse. Est-ce que tu peux me décrire ta chance?
J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec beaucoup d'amour. Mes parents m'ont toujours accompagnée, m'ont toujours dit que tout était possible, m'ont encouragée. En fait, ont demandé que je poursuive ma passion avec tout mon cœur. Mes parents, même si j'ai eu la chance et même le privilège d'être née dans une telle famille, je dirais que mes parents m'ont toujours dit qu'avec le privilège vient la responsabilité. Donc, il faut redonner à la société. Ils étaient très exigeants envers moi, en fait, envers tous leurs enfants. Je considère que c'était une chance d'être née dans une ville comme New York, où il y a tellement d'énergie, d'action, beaucoup de possibilités de découverte, et aussi beaucoup de... possibilité d'anonymité. Donc, c'est de dire que New York, c'est une ville où on pourrait se perdre facilement. Et il y a tellement aussi de choses à faire dans l'art, par exemple. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans les musées. Et c'est drôle parce que, ceci étant dit, plusieurs personnes me posent la question, est-ce que New York te manque? Est-ce que bon, c'est dur pour toi d'être à Montréal? Je dis tout le temps, mais absolument pas, pas du tout. J'adore la ville de Montréal, c'est ma ville adoptée. Et ça me rappelle, en fait, beaucoup de New York parce que c'est une ville où on marche, c'est une ville où il y a une vraie âme. J'ai vécu dans plusieurs différentes villes dans ma vie et je trouve qu'ici il y a un amour pour la culture, il y a beaucoup de variété, de diversité, il y a de l'action, mais pas trop non plus. J'aime beaucoup rentrer à Montréal parce que je dois voyager souvent pour mon travail. Donc, je suis très, très contente ici. J'ai vécu 2 années aussi à Toronto et, pas pour répéter, mais... Ce n'était pas mauvais. J'ai eu une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de super personnes, mais je dirais que si quelqu'un me disait qu'il fallait passer le reste de ma vie à Toronto, j'aurais pas sauté avec joie. Mais j'étais très, très contente de venir à Montréal et de m'installer ici. Mm-hmm.
Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu te considères comme une immigrante? Parce que les Américains, les Américaines, on n'a pas l'impression que ce sont des immigrants. Mais
c'est intéressant, c'est une très bonne question que tu me poses parce que j'ai réfléchi récemment. Parce que j'ai pris mon test de citoyenneté. J'ai passé, je suis très fière, mais je ne suis pas encore citoyenne. Mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience d'apprentissage, en fait, d'étudier tous les faits sur le Québec, le Canada, et de me rendre compte de toutes ces choses que je ne connaissais pas forcément. Par exemple, les symboles du Canada, like beaver, etc., et fleur de lys et tout cela. Fleur de lys, je connaissais, mais... Et il y a certains moments où je reconnais de plus en plus le privilège de vivre ici, de vivre dans un tel pays, de vivre ici à Montréal, et de reconnaître aussi que, oui, j'ai une expérience d'immigrante. Il y a des moments qui sont durs. C'est c'est pas toute mon histoire qui est ici. C'est une grande partie, la plus belle partie, je dirais, qui est ici. Mais tu sais, il y a quand je lis des livres faits par écrits par des immigrants, je reconnais certaines expériences. Mmh. Et voilà, donc oui, je suis immigrante, mais immigrante très contente.
Voilà. On devrait t'engager pour une campagne pro-Montréal. dans ta jeunesse, il y a eu sûrement des événements marquants, mais je pense au fait que tu as fait de l'équitation, ouais. Hein, qui est un sport très, très, très exigeant. Et... tu as fait ça aussi au prix de ta liberté d'adolescente. Là. De l'âge de peut-être 7-8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Puis tu as fait de la compétition, tu es allée aux Olympiques juniors. Ça a été très, très important pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là?
Beaucoup. Et la réponse courte, je reconnais, je suis très reconnaissante à mes parents d'avoir soutenu cette passion. C'est vraiment à travers le sport, et ce sport en particulier, que j'ai appris une éthique de travail, parce que pour faire n'importe quel sport à un très très haut niveau, ça demande de sacrifice. Donc, c'est tous les week-ends, pendant que mes amis sortaient, j'étais à 5 heures du matin sur le cheval, j'ai resté jusqu'à 5 heures le soir. Il fallait voyager beaucoup. il fallait mettre ma vie dans les mains ou les pattes d'un animal. Donc, j'étais toujours passionnée par les animaux et cette relation avec l'animal m'a donné beaucoup. L'expérience de littéralement se tomber du cheval et de me remettre debout, de recommencer et de me pousser à mes limites et physiques et mentales, parce qu'il faut gérer beaucoup de pression aussi et beaucoup d'attentes de plusieurs parties prenantes.
Ben oui.
Il faut vivre l'échec aussi, donc j'ai eu plein d'échecs, plein de chutes, plein de toutes sortes de choses. Donc honnêtement, je dis que quand les choses deviennent très très dures, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, connaissant ses limites et cette capacité de me forcer de surmonter les difficultés, je suis reconnaissante à mon expérience dans le sport d'avoir me donné ça.
Puis je t'imagine adolescente, marcher à New York, Manhattan. Quelle était ta vision de ton avenir? Quels étaient tes rêves?
Bon, au début, ça va avoir l'air très bizarre, mais j'ai toujours eu cette passion pour les animaux. Mais je voulais être biologiste marine. Ce qui est peut-être bizarre de dire d'une New-Yorkaise qui est entourée de ciment en tout temps. Mais j'aimais... En fait, New York, c'est comme un océan. Et j'ai adoré cette possibilité de découverte qu'on retrouve dans la ville par rapport à cette ambition d'être biologiste marine comme Jacques Cousteau. C'est parce que j'avais vu un film de Jacques Cousteau et je me suis dit, oh my God, ça a l'air trop cool. Mais j'ai découvert, je suis nulle en sciences, en biologie surtout, donc ça n'a pas marché très bien. Mais vers la fin de mes études... au lycée, je voulais vraiment être... Je savais que je voulais faire quelque chose dans le milieu créatif. Je pensais vraiment que j'allais faire quelque chose dans l'écriture, que j'allais être journaliste comme ce qu'on appelle les journalistes littéraires. Donc, j'ai adoré toutes ces personnes qui ont écrit et qui écrivent toujours pour le New Yorker, par exemple. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire, cette sorte de réflexion sur les enjeux pertinents, mais toujours avec cet ancrage dans l'histoire. Je n'ai pas eu accès à des cours en histoire de l'art quand j'étais jeune, parce que ça n'existait pas à mon lycée. Même si j'ai adoré l'expérience d'être dans les musées, parce que je me retrouvais toujours dans la paix, je suis y allée quand c'était... Parce qu'étant étudiante, c'était gratuite. Et donc, ce n'est pas comme si j'avais des connaissances profondes de tout, c'est juste j'aimais être entourée des œuvres d'art, même si je... Parce que c'est ce sorte de connexion avec le passé, avec la créativité humaine, cette possibilité de se plonger dans l'univers d'une œuvre d'art, ça m'a toujours passionnée, mais ce serait faux de dire qu'à l'âge de 17 ans, je me suis dit « Ah ben, je vais être historienne de l'art ». Ça s'est arrivé plus tard, même si j'ai toujours rêvé d'être quelque part dans le milieu des arts large, disons.
Oui, d'ailleurs, tu vas choisir d'aller dans ce qu'on appelle les American Studies à Stanford, en passant, wow! Tu sais, ça va bien, là. Ça va bien jusqu'à date, là. Manhattan, Stanford, et c'est un endroit de rêve. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-bas?
En Californie.
Les études aussi, le type d'études que tu as choisi.
Ah oui, American Studies. Ça, c'est, tu sais, quand on dit American Studies, ça donne l'impression que j'étais vraiment passionnée par les États-Unis, l'histoire des États-Unis, ce qui m'intéressait bien sûr, mais c'était parmi les seuls majors ou champs d'expertise, je dirais, qui me permettaient de faire et la littérature et l'histoire et l'histoire de l'art. Donc c'était un de ces choix qui a été multidisciplinaire. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ça combinait toutes les choses que j'aimais, et ça permettait, même si c'était American Studies, ça permettait quand même les études dans d'autres cultures aussi. Donc, c'est ça qui m'a amenée dans cette direction. Et j'ai fini aussi, complètement par hasard, en ayant une minor, donc sujet secondaire, en histoire de l'art, parce que quand je suis arrivée à l'université, j'ai toujours, comme je vous ai dit, j'ai adoré être dans les musées, donc j'ai dit, bon, ben, j'aimerais prendre une cours en histoire de l'art. Je l'ai tellement aimé que toutes mes périodes libres, j'ai suivi des cours en histoire de l'art. Donc, aux dernières années, à la dernière année d'université, le registraire de l'université m'a dit « Ah bon, ben, t'as un mineur en histoire de l'art ?» J'étais comme « Ah oui, vraiment ?» J'étais complètement... C'était pas prévu. Mais finalement, rendu aux dernières années, j'ai su que... Bon, toutes les choses que j'aimais, l'écriture, les images, l'histoire de l'art, ce que j'aimais le plus, c'était de raconter ou d'entrer dans l'histoire humaine à travers les œuvres d'art. Et le premier travail que j'ai eu après l'université, c'était dans un musée à New York, que j'ai adoré.
Musée de l'histoire, je pense.
C'était the New York Historical Society, qui est un musée sur qui traite l'histoire de la ville de New York et tous les peintres qui sont passés.
Puis à 23 ans, après ces années à Stanford, tu vas te rendre dans un endroit, encore une fois, absolument... Moi, je trouve ça extraordinaire, cet endroit, Williams College. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, c'est à 4 heures de Montréal. C'est une petite ville américaine où il y a non seulement un magnifique collège, mais il y a aussi le musée Clark. Clark Art Institute,
oui.
Et cet endroit est très particulier, collège vraiment particulier, parce qu'ils offrent que la maîtrise en histoire de l'art et ils choisissent 11 élèves seulement pour la maîtrise. Qu'est-ce qui a fait que tu as été choisie?
Oh, je ne sais pas. Ça doit être une erreur. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question pourquoi ils m'ont choisi, mais comme je vous ai dit, tout de suite après avoir eu cette expérience dans un musée, tout de suite après l'université, je me suis dit, ah, ben, je sais que je veux travailler dans un musée. J'étais complètement convaincue, j'ai adoré chaque minute de l'expérience. J'ai travaillé dans le département de l'éducation, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Mais je savais aussi, pour atteindre un niveau plus élevé que moi, j'étais stagiaire ou un poste premier niveau, qu'il fallait au moins une maîtrise. Mais je n'étais pas de tout prête à faire une application pour un doctorat. Je n'aurais jamais été acceptée non plus. J'ai parlé à plusieurs gens qui m'ont dit, c'est William, si tu veux avoir une expérience vraiment approfondie, dure, parce que c'est dur d'être au plein milieu de nulle part. Williamstown, c'est très beau,
c'est vrai.
Mais c'est loin, c'est 4 heures de chaque ville de côté. Mais il y a vraiment un microcosme de très bons musées. Donc, c'est pour cette raison que le programme est si connu. Bon, il y a cette rumeur de Williams Mafia, because plusieurs personnes, genre Glenn Lowry, who's at the tête de MoMA, l'ancienne conservatrice en Guggenheim, j'étais en fait, en tout cas, plusieurs sont un peu partout. C'est parce qu'il y a non seulement le Clark Art Institute, mais aussi Williams College Museum of Art,
Mass MoCA.
En tout cas, il y a beaucoup d'intensité autour des arts qui est là. Et donc, j'ai eu la chance de travailler au Clark Art Institute. YouTube pendant plusieurs années et d'enseigner aussi. Donc j'ai beaucoup aimé l'enseignement, ce qui m'a... Et ensuite, j'ai eu des professeurs qui m'ont dit « mais il faut que tu appliques pour le doctorat ». Si quelqu'un m'aurait posé la question à l'université, est-ce que tu vas faire un doctorat, j'aurais dit absolument pas. 10 ans plus d'école, non, mais non, je ne peux pas, mais
en, ça a été ensuite, ça. Ça a été 9 ans.
Ça a pris trop longtemps, mais en tout cas, non, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que je me suis rendu compte que si je voulais être soit à un autre niveau dans un musée ou soit professeur, qu'il fallait avoir le doctorat. Et là encore, c'est une expérience dure qui m'a beaucoup appris.
Mary aime se donner du fil à retordre. Son doctorat, elle le fera sur Monet, un sujet hyper couvert pour lequel elle trouvera un angle à creuser. Mais parlons d'un autre sujet maintenant, sa rencontre avec Paul Desmarais III, une rencontre prédestinée.
Je veux parler d'une rencontre.
Oui, OK.
Une rencontre qui a changé ta vie. Donc, tu as rencontré Paul.
Oui.
Paul Desmarais III. Mm. Et dis-moi, comment l'as-tu rencontré?
Bon, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à travers un ami qui ne m'a pas présenté Paul d'une façon, voici, c'était pas du tout romantique dans ma tête, mais apparemment, cette personne m'a rencontré et il a dit à Paul, qui était qui est toujours un très bon ami, j'ai rencontré la femme de ta vie. J'ai rencontré la femme de ta vie. Moi, je savais pas. Je n'étais pas du tout au courant. Je n'avais jamais rencontré cette personne, Paul. Et on s'est croisés pour la première fois. On s'est croisés dans un cocktail pour un ami en commun. Et ma mère, en fait, ma mère lui parlait. J'étais en train de parler à quelqu'un d'autre. Et ma mère m'a dit, Mary Daly, viens ici. Je suis tellement fâchée, j'étais furieuse, vraiment furieuse contre ma mère. Donc, j'ai vu Paul et j'étais vraiment frustrée. Je ne voulais pas lui parler, mais on a parlé un peu. Je trouvais qu'il était... très très gentil, il m'a fait rire beaucoup, ce que j'aime beaucoup, mais c'était vite notre première rencontre. Et en fait, Paul m'a raconté plus tard que quand cet ami lui a dit j'ai rencontré la femme de ta vie, il était pas content parce qu'il sortait avec quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un de très loyal et il n'était pas content. Et moi, comme je vous ai dit, je n'avais aucune idée de tout cela. Donc ça, c'était notre première rencontre. Et je ne l'ai pas vu pour les prochaines 2 ans à peu près, ou au moins 1 an et demi, parce que j'étais à Williams. Mais du coup, vers la fin de ma deuxième année de Williams, il m'invite à quelque chose chez lui avec plusieurs autres personnes. Pendant là, c'était un après-midi. Et j'étais à un moment de ma vie où je voulais rencontrer des nouvelles personnes, pas d'une façon romantique de tout, mais chaque fois que je revenais de Williams, je voyais les mêmes personnes tout le temps. Et je voyais mes anciennes amies que j'aime tant de New York, mais je voulais... rencontrer d'autres personnes, tout simplement. J'ai dit, mais tiens, et en plus, je ne voulais vraiment pas écrire un texte que je devais écrire cette soirée-là. Donc, je vais prendre une heure, aller à ce cocktail. Et donc, c'était vraiment la première fois que Paul et moi, on a vraiment parlé. Et je ne savais pas qu'est-ce qui était l'histoire avec sa copine. Elle n'était plus sa copine. Moi, je ne savais pas. Mais en tout cas, je suis sortie de là en me disant, c'est quelqu'un que j'aime. J'aimais beaucoup le temps qu'on a passé ensemble. Ensuite, il m'a invité la première date, si on veut, qu'on a qu'on a fait ensemble, il m'a invité à aller dans un musée. Je me souviens, on est allé voir l'exposition Edward Munch au MoMA. Et Paul, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art aussi d'une façon très, très authentique. Mais je lui ai posé la question plus tard, mais pourquoi 2 ans plus tard, tu m'as invité à cette fête un peu, you know, ça tombait d'une part. Elle m'a dit, après que l'histoire avec sa copine est terminée, pour les raisons qui n'avaient rien à voir avec moi, il est parti en Argentine avec une autre amie en commun qui connaît à ce jour pas la première personne. C'est un ami franco-argentinien. Franco-argentin. Et Paul a dit, c'est fini, je ne vais jamais sortir avec une autre Américaine, je ne vais que sortir avec les Montréalaises ou les Françaises. Et cet ami lui a dit, là encore, sans que je le sache, mais en fait, j'ai une amie, elle parle français, je pense que vous allez vraiment hit it off, je pense que vous allez vraiment vous aimer, donc je suggère qu'au moins tu l'invites à quelque chose. Et voilà, donc c'est ça
l'histoire. Ça faisait beaucoup, là.
C'est bizarre que deux personnes complètement différentes nous ont mis ensemble, et une fois qu'on s'est vu à ce cocktail chez lui, ensuite on sortait ensemble, c'était très vite, on était très amoureuses, et il a proposé le mariage cette même année, on s'est mariés l'année d'après, donc voilà.
Vous êtes mariés en
2008,
et le New York Times en a parlé.
Ah bon, ben.
Moi, j'ai une question. Devenir une démarrée, ça veut dire quoi pour toi?
Je dois dire que je viens de raconter une autre histoire. Je n'y ai pas pensé parce que c'était pour moi quelqu'un que j'aimais tant, je ne pourrais jamais m'imaginer avec quelqu'un d'autre. Et j'ai grandi à New York, donc moi, cette histoire démarrée, pour moi, ce n'était pas du tout important. C'est un nom comme tout autre nom. Mais c'est vrai que c'est plus que notre relation avançait, plus que j'ai compris le poids de ce nom. Et c'est quelque chose. Je suis fière de faire partie de cette famille, d'être. Je suis fière. C'est sûr que c'est un poids. Ça ne veut pas dire une chose pour moi. C'est quelque chose multidimensionnel qui des fois pèse lourde, mais comme chaque bonne chose dans la vie n'est pas toujours facile. Et je reconnais les privilèges qui viennent avec, je reconnais les responsabilités qui viennent avec, et je suis très inspirée par l'histoire du grand-père de mon mari aussi, qui j'aimais beaucoup, qui a toujours été très gentil avec moi et qui était vraiment, au fond, tout comme sa femme, c'est peut-être bizarre de dire, mais vraiment quelqu'un de très chaleureux et dans son cœur aussi simple en termes de ses valeurs, pas simple intellectuellement, au contraire. Mais quelqu'un, tu sais, ils aimaient beaucoup les bologna sandwich, les biscuits, la poutine. C'est eux qui m'ont introduit à la poutine. Et qui avaient ce patient pour le travail, de construire quelque chose, de donner au Canada, à Montréal en tout particulier. Donc, c'est toutes ces choses, bien ensemble, et on prend le bien avec le mal.
Mmh. Puis toi qui as un intérêt pour l'histoire, tu sais, je pense que ça vient renforcer tout ça. Vous avez 4 enfants.
Oui.
Là, on
oui.
est en 2024.
Oui.
Ils ont 6 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, 3 garçons, une fille. Pourquoi une famille aussi nombreuse?
Je ne sais pas. J'ai toujours voulu... Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Quand ça sort de ma bouche, c'est que, oh my God, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. J'aime, tu sais, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de chaos. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument. Mais 4, oui, c'est beaucoup, mais j'ai fait 2 et 2. Donc, il y a quand même presque 4 ans entre ma deuxième et mon troisième. Donc, ça, c'était très important pour moi parce que je terminais mon doctorat. En même temps, c'était vraiment très dur de terminer avec 2 enfants. Et ma fille, qui est le troisième, était un peu mon cadeau après avoir terminé. Donc,
Oui, raconte-moi d'ailleurs cette époque-là. Là. Tu as 2 jeunes enfants. Tu es encore à Yale. J'imagine ouais. que tu es à Montréal et à Yale. Puis tu commences au musée aussi. Tout ça se passe en même temps? Raconte-moi. When it rains, it pours.
Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, on était en France. En fait, parce que mon mari faisait son MBA à INSEAD, qui est une école de maîtrise en business, école de finance à Fontainebleau. Et je travaillais sur mon doctorat. J'ai eu aussi mon deuxième à Paris. Et c'est dur. Hein, chaque femme qui travaille reconnaît que c'est vraiment très... très dur. Il fallait juste continuer, de ne pas se poser trop de questions. Aussi parce que le cerveau n'est pas tout là, non plus, il n'endort pas. Mais pour moi, après un certain moment, je me suis dit, mais si je ne termine pas, j'aurais passé déjà, je pense que c'était 4 ans de ma vie sur quelque chose que je ne termine pas. Ça ne pourrait pas se faire. Donc, il faut continuer. Et voilà, c'était chaotique. Et j'ai terminé... J'ai dit à Paul, il me faut 3 semaines de concentration pure et dure, où je fais rien d'autre pour terminer. J'ai en fait déménagé. J'ai pris tous mes livres de là parce qu'en fait, après ma deuxième, on a déménagé à Toronto. Et c'est là que j'avais commencé au musée en tant que conservatrice associée. Donc, je travaillais à mi-temps. Je faisais de la recherche pour un projet.
Ici, au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Ici, au Musée des Beaux-Arts, oui. Ensuite, on a déménagé à Montréal en 2014. J'ai pris presque un mois. J'ai pris toutes mes choses. Je suis allée à New York et je travaillais jour et nuit non-stop pour terminer. Et voilà, beaucoup de nuits blanches, mais c'était fait et mieux que parfaite, n'est-ce pas? Donc, voilà.
Qu'est-ce que tu as fait quand tu as réussi à aller jusqu'au bout de ça, tu sais, avec 2 enfants, plein de... vivre en France, vivre à Toronto, vivre à Montréal? Est-ce que t'as célébré ta thèse?
J'étais honnêtement tellement fatiguée, je ne pouvais presque rien faire. Mais Paul m'a posé une question. Il m'a dit, il faut qu'on fête cet accomplissement. Allons quelque part pour le week-end. On peut aller. Mais non, où est-ce que tu veux aller? Et j'ai toujours rêvé d'aller à l'Arctique voir la communauté de Cape Dorset, parce que Paul et moi, on est passionnés par l'art inuit. Et c'est lui qui collectionnait l'art inuit quand je lui ai rencontré. Et donc, voilà, on est allé à Cape Dorset.
Petit week-end.
On était là pour 4 jours. Et c'était incroyable. J'ai rencontré Shuvenaya Shona, Ning TV, plein d'autres artistes que j'avais toujours aimé. Juste voir ce paysage sublime était vraiment incroyable. Et de voir tout un autre style de vie, tout un autre, découvrir une autre culture. Mmh. Pour vrai, ça, c'était une expérience marquante.
Mary Daly est clairement persévérante. On l'a vu avec son équitation et avec son doctorat. Sa force mentale va la préparer à une dure épreuve, de surcroît hyper médiatisée.
Mary Daly, j'ai l'impression que jusqu'ici, la chance te sourit. Et ça va tourner à un moment donné. On en a été témoin, on a vu ça, avec la saga au Musée des Beaux-Arts. Mm. Beaucoup d'encre a coulé pendant des mois.
Oui.
Puis le New York Times en a parlé. Bon. Le 6 juillet 2020, c'est une date marquante, n'est-ce pas, dans ta vie? Le président du CA, du Musée des Beaux-Arts, annonce ta nomination comme directrice de la conservation du musée. Tu vas relever de Nathalie Bondil à ce moment-là. C'est bien argumenté, ça sort assez bien. Mais nous, dans le public, on ignore complètement ce qui se passe. Et une semaine plus tard, on apprend que Nathalie Bondil est renvoyée en raison du mauvais climat de travail. Elle va accuser le CA d'ingérence. Elle critique ta nomination. Elle te traite de junior. Puis ça a joué dur. Très, très dur. Puis je voulais savoir comment tu as vécu cette histoire-là.
Oui, c'est dur à en parler. C'était, oui, très dur. Tu sais, avec un nouveau rôle, j'aurais aimé popper la champagne. célébrer, et ce n'était pas le cas. C'était vraiment pour moi la première fois que j'étais dans les médias d'une telle façon. Je suis une personne assez privée, j'aime ma vie privée, et pour moi d'être non seulement dans le média, mais toutes sortes de choses qui m'ont blessée, franchement, ça a vraiment... Ça a été dur pour moi. Tu sais, oui, c'était très dur aussi avec ma famille, parce que mes enfants me voyaient dans un état de détresse, mon mari aussi. Donc, j'étais dans très mauvaise humeur pendant plusieurs mois. Mais... bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est ça la vraie réponse. C'est on est humaine et je pense que dans les médias, quand toutes ces choses sortent, c'est facile à penser que ou à oublier les personnes qui sont derrière toutes ces choses négatives qui sont dites. Pour moi, c'était difficile de tout prendre. C'était dur pour moi aussi de sortir en public après. Je m'en rends compte juste vraiment maintenant ou lors de la dernière année parce que je me sens bien maintenant. Je suis très très contente au musée. Je suis très fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et tout ce qu'on construit ensemble. Mais maintenant, quand je parle, par exemple, en public, je reconnais jusqu'à tel point c'était vraiment difficile pour moi de parler en public pendant une certaine période parce que je pensais que, you know, tout le monde pensait que je ne devais pas être là, que toutes sortes de choses très négatives qui ont eu un impact sur moi, c'est sûr.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es restée? Malgré tout, parce que ça a été...
C'est la persévérance pure et dure.
Oui.
C'est la persévérance pure et dure. Et là encore, je reviens à cette histoire de sport où j'étais testée très fortement et physiquement et mentalement. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui lâche des choses. Je voyais les équipes aussi, parce que ce n'était pas toute cette saga qui entourait toute cette histoire. Mais aussi, il y avait aussi la pandémie. On était sans directeur ou directrice. Il y avait toutes sortes de changements. Et une chose qui m'a beaucoup aidée, c'était le soutien des équipes à l'interne, dont je vais être reconnaissante pour toute ma vie. Beaucoup de personnes ici étaient très... Ils m'ont soutenue. J'ai toujours senti l'appui de l'équipe, ceux qui m'ont dit qu'ils voulaient que je sois là. Ça m'a beaucoup aidée. Et c'était vraiment juste... J'ai pris un jour à la fois. Et c'était tout nouveau pour moi. Je ne voulais pas arrêter avant que j'avais réellement commencé. Et j'ai senti une responsabilité après tout cela d'assumer le rôle, d'assumer et faire mon mieux, même si je savais pas trop ce que je faisais au début. Et j'avais quelqu'un qui n'est pas vraiment un ami qui m'a dit: ah bon, ben je comprends pas pourquoi tu donnes pas ta résignation, tu peux échapper de tout ça, pourquoi? Je dis mais écoute, je peux pas faire ça, c'est pas possible, je vais pas faire ça, ouais, tu sais, je peux pas laisser le bateau quand le bateau est en train de se
couler.
Merci. Et donc je voulais poursuivre l'aventure et me rendre jusqu'au bout, à l'autre but du tunnel.
Est-ce que tu, aujourd'hui, quand tu penses à ça, est-ce que tu es une nouvelle personne, une personne différente qui a appris des choses? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Puis comment ça t'aurait peut-être transformé?
Mais c'est sûr que des expériences comme ça nous forcent de développer une carapace plus dure. Mais je craignais à un moment que ça allait me rendre trop dure, trop sceptique. Je ne suis pas une personne sceptique ni sarcastique. Et je ne voulais pas... devenir une pessimiste non plus. Pendant un moment, je craignais que ça allait me rendre plus dure que je suis actuellement. En même temps, ça, tu sais, ça m'a donné une carapace plus forte. Ça m'a aussi forcé de ne pas me fier à l'avis des autres sur moi, surtout pas à l'avis des personnes qui ne me connaissent pas. Tu sais, j'espère que j'ai le respect de mes collègues, mes amis, les personnes qui me connaissent, mais de se juger à travers les mots des personnes qui n'ont pas tous les faits, ça, je ne vais jamais faire. Je pense que, bon, il y a plusieurs d'entre vous, peut-être, qui ont été dans les médias, on voit tous les faussetés qui sont dites sur une base quotidienne. Donc, ça m'a forcé de devenir plus forte à cet égard. L'importance des amis et de la famille, de demander de l'aide, ce que j'aurais peut-être dû faire plus en amont, et de se concentrer sur le but, le but... large de, you know, le pourquoi, you know, tu m'as déjà posé la question, pourquoi est-ce que je suis restée? C'est pas seulement pour surmonter cette période de difficulté, c'était aussi parce que j'aime le musée Beaux-Arts, j'aime travailler dans un musée. Je n'allais pas laisser tomber un travail pour lequel j'ai travaillé très très fort toute ma vie professionnelle, parce que à cause de certains mots qui ont été dits dans les médias. Donc ça, Voilà, je pense que ce sont des choses majeures que j'ai apprises. Mais en plus de toutes les choses basiques sur la vie du musée, de gestion de crise, j'avais jamais, dans ma carrière professionnelle, j'avais jamais vécu une situation si turbulente à tous les niveaux. Donc la prochaine fois, je vais être préparée.
Elle peut être fière d'elle, d'être restée malgré la tempête. Ce n'était pas le choix le plus facile à faire, mais c'était certainement le bon.
On a couvert beaucoup de sujets, mais on n'a pas vraiment parlé du Musée des Beaux-Arts. peux-tu me parler de tes aspirations pour le musée, ta vision pour l'avenir?
Oui, il y a tellement de choses qu'on veut accomplir ensemble que c'est difficile à parler d'en choisir un. Mais je suis de l'avis que les musées sont parmi les seuls endroits en ce moment où on peut venir se lier à notre passé, comprendre la pertinence du passé pour notre présent, de se connecter aussi avec soi-même et avec les autres sans jugement. J'y crois dans les musées comme des lieux qui sert un bénéfice social qui est réel. Parce que on n'est pas le cinéma, on n'est pas un lieu de spectacle, on est un lieu de connexion, de questionnement, de conversation, et un des seuls lieux où on peut voir une diversité d'histoires hein, racontées à travers les objets d'art. Et donc, pour moi, le plus qu'on puisse se connecter à des gens, de les inviter, de les accueillir, de les laisser voir et se sentir à l'aise dans les musées, le mieux c'est. On parle beaucoup, Michel, je te vois, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, travaillant notre planification stratégique, donc je ne vais pas simplement juste rester ce qu'on a fait ensemble, mais c'est vraiment, on espère transformer ce musée dans un lieu de vie pour que les gens ne viennent pas simplement pour voir les expositions, mais ils sentent qui se sentent à l'aise, qui se sentent inspirés, qui voient la possibilité, qui questionnent les idées reçues. Il y a beaucoup de questionnements sur l'avenir des musées en ce moment, parce qu'il y a, par exemple, des expériences immersives, AI, etc. Les gens me posent la question tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de l'impact que le AI va avoir sur les musées? Moi, je pense que c'est très positif. Si je pourrais avoir un robot écrire tous mes cartels enrichis, je pense que ça me sauverait beaucoup de temps. Mais en fait, pour être honnête, je vois l'intelligence artificielle comme étant une nouvelle forme d'art qui est excitant. On va jamais être un lieu de spectacle comme certaines de ces expériences, Monet en 3D par exemple, que je ne dénigrerai pas, c'est juste différent, mais je pense que on peut offrir une expérience immersive qui nous est propre. On peut offrir une immersion dans le passé, dans le présent, à travers l'art et les artistes, parce que j'ai toujours cru que les artistes ont un rôle important à jouer, surtout pendant les moments de crise, parce qu'ils voient le monde différemment. Donc, le plus qu'on pourrait inviter les gens à venir ici, à vivre une autre sorte d'immersion et de voir la pertinence de ce qu'on fait le mieux c'est.
Merci. On va passer au questionnaire Brave.
Ah oui, ok, oui.
Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage?
Douche froide et café. Donc... En fait, c'est vrai, je prends à chaque jour, je prends un douche hyper, hyper froid, de genre glacé. Ici, à cause de mon beau-frère qui m'a parlé de Wim Hof. Je ne sais pas si vous connaissez Wim Hof, qui est connu comme étant le Iceman, l'homme de la glace, qui, bon, lui, il fait des choses stupéfiantes et incroyables, ça prend de force de surmonter le froid. Et donc, en le faisant chaque matin, ça me donne de courage. Et ça me réveille aussi, tout simplement. Mais j'ai pas une phrase ou un mantra que je me dis. C'est juste, je me lance dans le froid, je me lance dans le vide, voilà.
C'est quoi être brave pour toi?
Pour moi, d'être brave, c'est surtout de ne pas avoir des craintes. C'est de se tenir à ses valeurs malgré nos craintes, de surmonter nos craintes, de prendre position pour ce qui est juste. C'est de se pousser plus loin. Et oui, je dirais... C'est ça d'être brave pour moi.
Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
Là encore, je n'ai pas vraiment une phrase ou quelque chose que je me dis, mais je pense souvent à ce qu'un de mes professeurs m'a dit, pour le bien, pour le pire. Il m'a dit, you know, Mary, don't think about it, just do it. N'y pense pas, juste lance-toi. Et donc, bien sûr, il faut réfléchir dans la vie, il faut réfléchir avant d'agir, mais il ne faut pas trop penser les choses non plus, et des fois il faut prendre de l'action. Moi je me dis souvent dans les moments de doute, n'y pense pas, je fais le. C'est ça.
Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
C'est sûr qu'il y a plusieurs moments où je n'étais pas aussi brave que j'aurais aimé être. Il y a deux moments qui sortent pour moi. Un, quand j'étais dans le métro à New York avec ma meilleure amie. Et il y avait quelqu'un qui faisait de graffiti, mais qui n'était pas un beau graffiti, parce qu'on pourrait trouver des très beaux graffitis à New York, à Montréal, etc. Mais il mettait son nom dans le train, comme ça. Et elle était très courageuse. Et elle a dit, je lui ai dit d'arrêter. Et il a tourné vers elle. Il a dit toutes sortes de choses méchantes sur elle, sur sa physique et tout. Et je n'ai rien dit parce que j'avais peur. J'avais peur de cette personne. On était dans un train très...
bondé.
Il y avait beaucoup... Oui, exactement. Et je le regrette jusqu'à ce jour. Je pense à ce moment. Elle est toujours ma meilleure amie. Et elle m'a dit, mais tu ne devais pas dire quelque chose. C'est possible qu'il avait un couteau ou qui sait. Bon, moi, ça ne m'a pas trop embêté. Mais de voir quelqu'un qui j'aimais être attaqué et de ne rien faire, ça m'a marqué. Je vais jamais laisser ça passer de nouveau, et je le regrette, même si elle ne le regrette pas. Et elle avait de courage à ce moment. Je pense aussi à un moment où j'étais dans un bureau. C'était un environnement professionnel. Je ne vais pas nommer l'endroit, ce n'était pas un endroit muséal, mais une des personnes qui était très senior, il faisait très chaud à New York, il a commencé, j'étais stagiaire, il faisait, ouais, comme j'ai dit, c'était l'été, il faisait très chaud, et il m'a approché, il commençait à mettre Coca-Cola dans son frigidaire, parce qu'il m'avait invité à aller dans son bureau pour parler d'un texte que j'allais écrire, je pensais en tout cas, et il a sorti, d'abord il m'a offert une bière, c'était genre 15h de l'après-midi, j'ai dit non, ensuite il a sorti ses deux canettes de Coca-Cola, il a commencé à les mettre sur mon dos, you know, un peu like, comme ça, genre Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire, me masser avec les canettes de coke. Mais en tout cas, c'était très inconfortable. Je me suis levée, je suis sortie. Et je pense à toutes ces fêtes. Pour moi, ce n'était pas une expérience choquante. Ce n'était pas, je n'étais pas agressée sexuellement, pas du tout. Mais j'y pense souvent parce que j'étais très inconfortable. Je ne sais pas si la bonne décision a été de dire quelque chose, mais je pense à toutes ces femmes qui sont dans ce genre de position, beaucoup plus pire que la mienne, par exemple, qui ont le courage de dire quelque chose, parce que c'est beaucoup plus dans le moment. Dans le moment, on est un peu choqué. Et moi, comme je dis, l'expérience, ça ne m'a pas traumatisée, mais dans la lumière de MeToo et tous ces cas d'abus sexuels, je me dis, ça prend vraiment de courage pour dire quelque chose, pour s'affirmer, pour sortir de ces situations. C'est souvent plus facile de dire que de faire.
Absolument. Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
Il y a plusieurs types de courage. En ce moment, je pense à toutes les personnes qui se battent pour leur vie, qui se battent pour la vie de leur famille à travers le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine ou autre part du monde, parce qu'il y a des actes de courage quotidiens qui ne sont pas souvent remarqués. Et donc, pour moi, toutes ces personnes sont très courageuses. Il y a aussi des gros gestes de courage. Je pense à Martin Luther King, par exemple, qui est quelqu'un, Martin Luther King, Nelson Mandela, je pense à Marie Curie en France, des personnes qui ont réussi dans un milieu où ils étaient loin d'être les bienvenus. Dans le cas de Dr. King, quelqu'un qui a non seulement confronté le racisme extrême aux États-Unis, mais qui a réussi à rassembler les gens de toutes sortes autour de lui. C'est vraiment l'idée, le mouvement de droit civil aux États-Unis, avec une passion et avec une manière de parler qui parlait à tout le monde, qui touchait le banc, je pense, dans l'être humain, qui était très, très humain dans son discours. Et pour moi, c'est un vrai héros, vraiment quelqu'un de très courageux.
Finalement, qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
Bon, comme mes parents m'ont dit, je dirais de poursuivre vos passions avec tout cœur. Je dirais aussi de rester humble. Je pense que c'est important d'avoir un peu d'humilité dans ce vie. Maintenant, on voit, c'est super de voir autant de jeunes qui réussissent si tôt dans la vie, mais il y a une sagesse qui vient avec l'âge aussi. Il y a la sagesse qui vient avec l'expérience, qui est importante et qui va vous aider dans la vie. Donc ça c'est très important aussi, et de toujours penser à ce qui est possible avant de penser à ce qui est impossible, parce que tout est possible réellement.
C'est une belle note finale. Merci beaucoup, Mary Daly, pour
t'en apporter. Merci à toi, merci à vous.
Je suis vraiment heureuse d'avoir pu dévoiler une partie de la vie de Mary Daly et de permettre à plein de gens de mieux la connaître. Lorsque quelqu'un vit le type d'épreuve qu'elle a vécue publiquement, bien des idées reçues se créent à son endroit. Son point de vue, son expérience deviennent alors fort utiles, non seulement pour compléter l'histoire, mais pour transmettre des leçons importantes apprises qui seront bénéfiques pour les autres. Merci. Mary, merci, chère brave, merci d'avoir été à l'écoute.
et à très bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.